déambulation.
Il y a pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi les mails d'aujourd'hui, il y a eu un rendez-vous avec la mairie à 13h30 parce que Jean-Pierre part en vacances, enfin en absence. Du coup, il y avait un peu le glissement de terrain qu'on sentait pointer, notamment parce qu'avec le confinement, puis un théâtre qui s'est fait expulser hier à Toulon. Il y a un super communiqué du CIP, d'ailleurs, de Marseille, je crois, qui est à lire sur Internet, sur aussi c'est quoi, en fait, la réalité de nos occupations. Nous, on est sur un territoire assez chouette, dans le sens où on se connaît, on est en lien avec les directeurs de structure depuis le début. Et c'est Jean-Pierre qui a sollicité la mairie, parce qu'ici, c'est une délégation de service public, et la question de responsabilité légale, elle vient intervenir à fond dans nos modes de fonctionnement. Du coup, il y avait une réunion avec la mairie à 13h30. On a eu une réunion ce matin en AG où on en a parlé pendant 2 heures et on a établi en fait un processus de mandat. Camille et moi-même, on y est allés. On a rencontré la directrice des affaires culturelles, Sylvie Girard. On a rencontré Olivier Garnier qui est chargé des services techniques. Il y avait Jacques Planchon qui était là aussi, qui est directeur du musée et qui est aussi responsable des affaires culturelles. Et Nathalie Guénaud, qui est aussi conseillère municipale, et Hugo Frison et Jean-Pierre Sciolc donc du cinéma et du théâtre. Et on a discuté pendant 1 heure des raisons de l'occupation, enfin à la base quand même de, en fait, si Jean-Pierre part, ben en fait vous partez aussi, c'est parti de là, hein. Ouais. Et on était mandaté avec des choses assez claires avec Camille, ce qui nous a permis quand même de poser ce qu'on peut appeler un rapport de force, mais assez sympa. Nous, on est arrivés avec des propositions. Et en fait, bon, pour vous la faire rapide, parce que je trouve que c'est un peu tendu de vous couper, on est arrivés avec des propositions. La première proposition, c'est on reste. Et on délègue la responsabilité légale, parce que c'est institutionnel, hein, à des personnes que la mairie accepte. Deuxième proposition, vous nous proposez un autre lieu, et on avait pensé à la salle polyvalente, qui avait plutôt c'était OK pour les gens qui étaient là. Troisième proposition, est-ce que vous n'avez pas un lieu à nous filer? Quatrième proposition, si vous n'avez aucune proposition, ben nous, on reprend contact avec vous une fois qu'on en a fait part à l'Assemblée, quoi, en gros. Et en fait, du coup, on est arrivé avec une carte qui était super chouette, qui est qu'on a pris le temps de discuter avec des membres de l'association du Pestel et qui eux-mêmes se sont permis d'inviter notamment une salariée qui est une salariée du Pestel. Et Morane a proposé de se porter responsable en l'absence de Jean-Pierre. Ça a été validé par Jean-Pierre en amont de la réunion et ça a été validé par la mairie. Donc, en gros, on a profité de ce moment où, en fait, la négoce, entre guillemets, si on peut appeler une négoce, a été assez rapide parce qu'on est arrivé avec cette proposition, pour aussi amorcer un début de discussion avec la mairie, avec des personnes qui sont plutôt favorables à l'occupation, on est un peu dans un grand champ de culture. Nous, on est les tulipes, voilà, nous les occupants. Il y a aussi plein d'autres fleurs autour, ou mauvaises herbes ou bonnes herbes.
Et je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent nous soutenir, mais pas ouvertement, c'est pas possible. Et même eux, à la mairie, on s'est rendu compte qu'ils sont aussi un peu bloqués dans leur mode de fonctionnement, aussi, quand même.
Donc on a des portes ouvertes, en gros on a ouvert une brèche et ça s'est plutôt bien passé. Nous on a un peu la sensation que ça y est, en fait on peut parler en tant que mouvement. Enfin en tout cas nous deux, j'ai l'impression, on s'est senti vraiment porter la parole d'un mouvement et on a été entendu et on a aussi posé des questionnements politiques sur la table. On a parlé de la relation avec les gendarmes, on a parlé de la relation avec le préfet. On a dit, OK, ça se passe bien maintenant, mais comment ça va se passer plus tard si jamais il y a une injonction? Parce qu'ils sont dans des procédures, c'est normal, c'est des gens de la mairie, quoi. Mais on est arrivé en tant que responsable et on a été entendu en tant que responsable. Voilà, c'est aussi pour dire que, voilà, il y a quelques petits trucs qui vont changer, mais honnêtement, c'est genre, on met plus de chaussures dans le cinéma, parce qu'il va pleuvoir la semaine prochaine. Alors vraiment, je vous donne cet exemple.
Et que c'est du coco par terre.
Voilà. Et que on a aussi, nous, pour affirmer notre position de responsable et du coup affirmer aussi avec le soutien de Jean-Pierre et d'Hugo, hein, qui sont vraiment des forces vives avec nous, que on a parlé d'autogestion. On a parlé des AG, on a parlé de ce truc assez formidable et vivace qui existe. Et c'est entendu, et je pense que c'est entendu par des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre ça et d'accepter que ça existe, dans le sens où, en fait, on a posé sur la table, OK, Morane se porte garante et responsable, mais nous aussi, en tant que personne de l'occupation, on peut revenir aussi à des mécanismes de chaîne de contact, voilà, là on n'est pas que en contact avec Jean-Pierre ou avec Hugo, là on va être en contact avec le responsable des services techniques, la chargée des affaires culturelles et tout et tout, et ça a été entendu et plutôt bien, et on a aussi posé des formes de choses sur la table qu'on pourra discuter plus tard en une restite plus large et en AG, par exemple, je sais pas, il y a demain ou samedi quoi. Parce que ça pose aussi la question de la pérennité, et c'est aussi ce dont on a parlé ce matin. Donc on n'a pas mis sur la table la question, vous n'avez pas un lieu vide là, c'était peut-être un peu tôt, mais en tout cas on a posé sur la table, en fait nous, notre force vivace, autogestionnaire et citoyenne, enfin toutes ces mots n'ont pas été utilisés, mais on existe, on est là et on n'a pas envie de partir. Voilà, en gros c'est assez favorable.
Non, c'est bien.
C'est bien ?
On va pas faire un débat, non ?
Bah, merci à vous deux.
C'est quand là ? La restite la plus longue ?
La restite la plus longue, je sais pas. La prochaine AG, c'est samedi ?
Demain, il
n'y a pas d'AG, et c'est peut-être de dire aussi que, en fait, ouais, juste en dernier truc, on a face à nous les élus de la mairie, mais pas forcément les élus de l'opposition. Mm-hmm. Ouais, donc c'est un conseil, le conseil il est large quoi. Aujourd'hui ils nous ont bien fait comprendre que c'était hyper exceptionnel de faire une réunion comme ça parce qu'ils n'ont pas le droit, c'est toujours ce truc juridique là par rapport aux réunions au confinement, normalement aujourd'hui c'était pas clair, ils ont le droit que d'organiser, d'accueillir des réunions décisionnaires quoi. Mm-hmm. Donc là nous on arrive un peu là-dedans et puis on a posé, ok, on sait très bien que vous avez beaucoup de boulot là-bas, l'hôpital, mm-hmm. tout ça. Mais on a besoin de continuer le dialogue. Donc ça, c'est posé sur la table, c'est clair, quoi. On a besoin, il faut qu'on se revoie, en fait, voilà. Mais aussi posé, nous, on est un collectif large, on va pas arriver comme ça demain avec une charte, enfin un machin, un truc. Mmh. Mais ils ont été clairs, revenez d'accord, mais revenez avec des choses claires. Mmh. Demandez-nous des choses, ils ont dit. Mmh. Et la prochaine... rencontre sur laquelle on peut, mis à part le fait de reprendre un rendez-vous avec eux, parce que d'un coup, ça y est, notre fleur, elle a éclos et on a un truc hyper clair à leur demander, ce qui est possible. Le prochain conseil communal, c'est le 11 mai. Donc, on voit un peu loin, mais voilà. On est là. Et le prochain conseil, c'est le 11 mai. Et à ce conseil, il n'y a pas de débat, mais il y a la possibilité de venir ouvrir une présentation que moi, j'ai appelée sur mes notes « déclaration ». Et là, il y a les gens de l'opposition. Parce que se pose aussi en questionnement notre visibilité vers l'extérieur et la question de l'inclusivité, notamment sur le territoire. Enfin, il y a des personnes qui disent qu'on n'est pas inclusif, c'est-à-dire que c'est trop, on est trop entre nous. Enfin, puis il y a d'autres gens qui ont d'autres positions. Ça, on peut le mettre en chantier, on n'en parlera pas maintenant, je pense, mais voilà. Mais du coup, au conseil municipal, si on reste dans ce truc de cette institution, il y a une opposition qui ne nous aurait peut-être pas accueillis de cette manière-là. Hein. En gros, le prochain conseil municipal, c'est le 11 mai. Et si on est prêt et qu'on a envie, c'est un moment où on peut aller parler au conseil municipal, à l'opposition. Quoi. En attendant tout le reste, les habitants, tout ce qu'on fait ici tous les jours. Quoi. Mais, en tout cas, c'est la force collective et tout le truc en chantier. Et puis vraiment, ce matin, j'ai formulé ce truc de mise en culture. On n'est pas là que pour la culture. Et on leur a rappelé qu'il y a aussi des salariés précaires. Il y a aussi y a eu le soutien à la grève des AED. On a eu le temps de parler de ça. Hein. Enfin, en tout cas, de leur exposer. Et ce truc de mise en culture, d'un coup, ça, pof, ça fait... Bah ouais. Ouais, en fait, on met en culture des trucs. Voilà. Ils peuvent être soutien. Voilà, c'est bon ?
Merci. On continue et on va vous parler des actions de la tulipe sauvage. Et avant ça, on va vous raconter brièvement comment est né le collectif, puisque en fait le collectif existe depuis le 17 juin de l'année dernière. avant que le collectif qui est né le 17 juin se constitue, il y avait un proto-collectif. Donc il y a quelques personnes qui depuis un moment travaillaient sur la question de l'extension de la ZAC, de l'artificialisation des sols dans le Diwa, voilà. Et donc ces personnes avaient commencé un gros travail de fond depuis un moment. Et l'année dernière, le 17 juin, il y a eu un appel qui a été lancé pour une journée d'action, donc un appel qui a été lancé à partir de Notre-Dame-des-Landes. L'appel s'appelle « Agir contre la réintoxication du monde ». Voilà, et du coup, il y avait tous les collectifs, associations qui souhaitaient se mettre en action ce jour-là étaient appelés à aller occuper soit des lieux industriels ou des lieux potentiellement où des terres agricoles allaient disparaître. Voilà, donc il y a eu une première journée de mobilisation le 17 juin. Et il se trouve que la chorale de chant de lutte L'Émeute de Die, qui est articulée à une autre chorale de chant de lutte de Cray, avait décidé pour cette journée de faire une action chantée sur toute la vallée en fait, de la Drôme. Donc on avait choisi plusieurs points qui nous paraissaient intéressants ou allaient porter des chants de lutte. Donc en gros, on est parti le matin à 10h du pôle emploi de Cray et on a sillonné la vallée. Et la dernière étape était le petit rond-point de Chamarges pour aller chanter le chant des paysans. Voilà, et il se trouve que Marie est connectée avec la chorale et elle a su qu'on était parti sur cette journée d'action. Et du coup, on s'est mis en relation et deux jours avant, on s'est dit « bon, bah allez du coup, on lance l'invitation pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient là ce jour-là. Et ça a été fait très à l'arrache. Mais du coup, on s'est quand même retrouvés à une centaine de personnes ce jour-là pour évoquer la problématique de l'artificialisation des sols dans le Diwa. Voilà. Et le collectif est né à partir de cette première action. Voilà. Du coup, on a une courte vidéo de 4 minutes à vous montrer.
Au cinéma, quand même.
Ouais.
Dommage.
Cette journée, il y avait aussi des gens de la mairie qui avaient pris un peu position. Oui. Et ils n'étaient pas encore élus des personnes de...
Bah ouais, on était en pleine période de campagne. Pour rebondir sur ce que disait la collègue, là. C'était une période un peu trouble parce qu'ils étaient en campagne. Et il y a des gens donc, de la liste qui a été élue qui sont venus... Et c'était une posture, enfin, pour rebondir sur les négociations sur l'occupation du cinéma. Voilà. Entre la période électorale et la période où ils seront au pouvoir, il y a des fois des petits décalages. Bon, je dis ça, je dis rien, mais.
Voilà. En tout cas, ce qui était intéressant, c'était la sortie du confinement. Je pense qu'il y avait beaucoup d'idées qui avaient circulé aussi entre les gens, soit par des réseaux larges, soit par des réseaux plus personnels, qui faisaient qu'il y avait une urgence à aussi. Relocaliser des luttes, justement, au lieu de partir sur des choses très désenracinées, voilà, être vraiment sur ce qu'on peut faire là maintenant, ici, chez nous, à côté de notre porte, quoi. Et je pense qu'il y avait vraiment cet esprit-là. Et que du coup, c'est vrai que c'était en plus dans cette espèce de creux électoral, là, et que ça a créé quelque chose d'assez particulier comme ambiance, ouais. Vas-y, Lucie.
Et juste pour compléter, excuse-moi Lucie, avant de lancer, ouais. À l'époque, apparemment c'est plus le cas, mais ça reste à confirmer dans les faits, à l'époque, on parle beaucoup de l'extension de la zone commerciale, mais il y avait aussi le projet du nouvel hôpital de Die, qui a été aussi l'embryon du proto-collectif, etc., dans lequel il y avait Spirou, qui a disparu, mais voilà. Donc la première mobilisation, elle était aussi sur ce qui s'est fait de façon pas du tout démocratique, où l'ARS a acheté un terrain. Donc qui est juste à côté des terrains dont on parle pour construire un nouvel hôpital sans en parler aux citoyens et sans les consulter.
Qui ne sera pas un hôpital d'ailleurs, qui sera un hôpital de proximité.
Donc au rabais, avec moins de services, moins de salariés, moins de lits, etc.
Pas de chirurgie, pas de maternité. Garantie sur loi...
Oui, c'est plus la loi Buzyn, la réforme de la santé. Et le premier scandale qui nous a alerté, en tout cas avec Spiros et d'autres, c'est le fait que ça, cette info, elle est fuitée d'un couloir de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'à un moment, l'ARS se positionne pour construire un hôpital pour les Divois, mais ni les élus, ni les citoyens, enfin, ni les élus n'informent pas les citoyens. Et donc, il y avait vraiment grosse interrogation sur le, voilà, sur le processus démocratique ou l'absence de processus démocratique.
Oui, aucune information. Hein. C'est l'Agence régionale de santé qui a acheté 3 hectares de terres agricoles sans consulter qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Il y avait des élus qui étaient au courant, mais sinon, personne d'autre.
Tout d'abord, c'est pas étonnant que les ARS puissent avoir toujours ces types de dispositions. Donc, les ARS, aujourd'hui, ils sont en poids très lourd par rapport à tout ce qui se passe au niveau santé, etc. et tout ça, que c'est une grave catastrophe au niveau national. Donc ça, c'est le premier point. Mais par contre, pour revenir à l'ancienne maternité de vie, est-ce qu'il y a eu une façon publique, un diagnostic fait par une expertise pour une possibilité de réouverture de ces lieux?
Du bâtiment de l'hôpital? Ben non, oui. C'est ce que demande le collectif de l'hôpital.
Donc c'est la vraiment claire, c'est plus avoir un diagnostic public fait par des experts, pas des ARS. Les ARS, il faut les mettre vraiment dehors de tout ça, mais avec justement une expertise qui soit publique et entre, pourquoi pas, entre professionnels qui sont vraiment au niveau, soit au niveau de l'éco-construction, il y a plein de différentes associations qui existent et qui font un excellent travail aujourd'hui, qui soient reliées à ce diagnostic-là. Parce qu'on ne fait pas, pourquoi faut-il encore construire et reconstruire des projets qui ne sont pas tout à fait très utiles quand existe déjà l'existant. Et cet existant-là, il faut qu'il récupère la vie nécessaire justement par rapport à un territoire. Voilà.
On va certainement y revenir.
On reviendra sur le sujet.
Tous ces paysans, tenez bon, tenez bon. Tous ces paysans, tenez bon. Revendiquer la terre à cultiver, les flics sont embusqués, ils viennent vous matraquer, paysans, tenez bon. Les promoteurs arrivent, tenez bon, tenez bon. Les promoteurs arrivent, tenez bon. Expulsons par on vous vole et puis spécule, fini la spoliation.
On aimerait bien que ce rond-point soit pas le dernier endroit où on peut planter des choses, a dit, dans la plaine de Chamarge. Devant vous, 4 hectares des meilleures terres arables artificialisées pour étendre une zone artisanale. La surface urbaine de Die a été multipliée par 5 depuis les années 60, alors que la population a augmenté de 700 habitants.
La vallée de la Drôme, c'est en train de devenir comme la vallée du Rhône. C'est du n'importe quoi. C'est un espèce de modèle de développement complètement passéiste. Je trouve ça stupide. Je veux dire, je comprends pas. Je comprends pas qu'il y ait des politiques qui puissent choisir ça. Regardez le Diois. Regardez les montagnes. Regardez combien il y a de terres plates irrigables. Pour s'alimenter, pour se nourrir, pour pas acheter des choses qui viennent de l'autre côté du monde.
Serait-ce une émeute mondiale qui fait trembler le capital, qui éphémère les usines, qui fait arrêter les machines? Non, 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 c'est le coronavirus. Serait-ce une drogue? Non, 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 c'est le coronavirus. Qui fait dépenser moins de pétrole, fermer les facs et les écoles, qui fait baisser la pollution, c'est sans fin la révolution. Non, 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 c'est le coronavirus. Non, 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 c'est le coronavirus.
C'est pas juste une histoire de choix, en fait, c'est pas une histoire d'envie, c'est pas une histoire de dire ça nous plaît ou ça nous plaît pas, qu'il y ait du développement économique, c'est juste qu'on n'a plus assez de terres pour les brader, pour mettre des trucs dessus. C'est pas possible. Et en plus, il y a un énorme décalage entre le prix de vente de la terre agricole et l'achat.
qui est fait ensuite. Donc il y a quand même un aspect potentiellement spéculatif qui pourrait être orienté plutôt vers l'installation de maraîchers et de gens qui vont faire de la production alimentaire. Et ça ferait aussi de l'emploi. Donc tout ça, c'est que des choix politiques. Il faut absolument arrêter de se dire que si on ne fait pas des énormes hangars, on ne va pas s'en sortir pour bosser. Il y a plein d'autres façons de travailler et on n'est pas obligé d'avoir des kilomètres de terre qui passent en plus très morcelés avec beaucoup de parking. Des commerces qui étaient en centre-ville qui se retrouvent ici où les gens y viennent en voiture, c'est des modèles complètement vétustes qu'il faut juste arrêter.
J'ai fait un petit inventaire des plantes qui étaient là et ce qui est super intéressant ici, c'est qu'en fait on est dans des zones agricoles qui sont super intéressantes au niveau floristique, justement maintenues par l'agriculture. Donc du coup, rien que sur cet espace, et je l'ai fait dans des conditions un peu à l'arrache, il y a 13 espèces qui sont inscrites sur des listes rouges d'espèces protégées, dont deux au niveau national.
On ne répond plus du tout à la demande des citoyens, on répond à la demande des financiers, des grandes entreprises. Et à Cray, on a les mêmes combats. Donc si dit Cray, même la vallée de la Drôme, se met ensemble contre ce genre de projet, mais dégueulasse, on enlève la terre pour nous nourrir, alors qu'on sait que la terre, on sait très bien que la terre arable est en train de mourir. En 40 ans de capitalisme, on a perdu plus de 30% de terres arables. C'est quand même pas rien, plus de 30% pour nourrir la population, alors que celle-ci est encore plus importante qu'avant.
Reprendre en main sa vie, tenez bon, cela commence ainsi, tenez bon. C'est du latin racaille, bourgeois réactionnaire, à ceux qui la travaillent, il faut laisser la terre.
Donc ça, c'était le 17 juin l'année dernière. Il y a eu un autre appel qui a été lancé le 17 novembre l'année dernière. On prévoyait une action permettant de faire venir les gens sur le rond-point et ça a reconfiné. Du coup, nos plans ont été contrariés, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, on a décidé d'intervenir en petits groupes de tulipes et le 17 novembre, pour le nouvel appel à agir contre la réintoxication du monde, on est allé installer très tôt le matin cette banderole, enfin ces deux banderoles sur la parcelle qui va être artificialisée. Voilà.
Non, qui va pas être artificialisée.
c'était sur le remblai qui avait été enlevé de la terre déjà. Ouais, donc ça, elle a quand même été déjà pas mal brassée. Après, on peut encore avoir de l'espoir, mais.
Par la même occasion, ouais. En fait, on a invité tous ceux qui nous avaient soutenus en nous laissant leurs petites griffes et un mail dans la pétition qu'on a fait signer, en les invitant à se prendre en photo, bah, soit chez eux, soit s'ils avaient envie devant ce terrain-là, avec un petit slogan pour dire stop à l'artificialisation, quoi. C'était des voilà, manif à distance, manif. Manif numérique.
Sinon, pour les autres actions qu'on a fait, qu'on a entreprises depuis le 17 juin, on a aussi été rencontrer le conseil municipal. Ils ont accepté de nous écouter. On leur a présenté le collectif. On a lancé une pétition aussi l'été dernier qui a circulé. Il y en a peut-être qui l'ont vu. Si vous ne l'avez pas encore signé, il est encore temps. Il y a Charlotte qui en a des exemplaires qui restent à remplir.
Oui, il y a des exemplaires.
Et on les a mis ici aussi. Ah oui, 1000 signatures, ça y est.
Ouais.
Voilà. Et on a aussi, dans le cadre de la révision allégée du plan local d'urbanisme, on est allé rencontrer le commissaire enquêteur. On lui a apporté la pétition au cas où, même si on ne nous consultait pas du tout sur la question des terres agricoles en général. Et on lui a apporté cette révision allégée, ça a posé des questions sur des petits points précis. Donc on est allé chercher ces petits points précis, on est allé dire on n'est pas d'accord à cause de ça, les tulipes sauvages, on n'est pas d'accord à cause de ça. On a répondu sur tous des petits points précis, parce que c'est comme ça qu'il faut faire malheureusement pour être écouté.
Bah, puis ça, du coup, on peut dire que c'est vraiment un travail de fourmi. c'est invisible et nécessaire, et du coup ça demande vraiment un gros boulot d'analyse du document et ensuite de construire un argumentaire sur des points de détail, quoi.
C'est un travail d'avocat.
Ouais.
Après, on a aussi rencontré
et
la
puis,
CCD,
ouais. On a demandé aussi, on a envoyé plusieurs courriers à la communauté de communes et finalement, on a rencontré des élus de la communauté de communes qui sont en fait aux commandes maintenant, en gros, sur cette urbanisation du Diwa. C'était en octobre. Et il y avait plusieurs d'entre nous et malheureusement, c'était très décevant. Ça a commencé avec... mais de toute façon, ce ne sont pas des terres agricoles. Donc là, déjà, c'était mal parti. Voilà, parce qu'en effet, ces terres ont déjà été déclassées depuis des années. Donc pour eux, ce n'est plus des terres agricoles. Donc ce n'est même pas la peine d'en parler. Le sujet est clos et voilà.
Peut-être on n'a pas bien expliqué le fait que donc il y a eu une transmission de compétences et c'est vrai que de toute façon tous les terrains là de la ZAC, c'est la CCD qui les achète aux agriculteurs et c'est la CCD qui les revend. Donc c'est eux qui jouent le rôle et qui décident aussi de la structuration et de la manière. Par exemple, ils pourraient ne plus vendre ces terres et les confier avec un bail emphytéotique. Ce qui changerait complètement parce qu'en fait ça resterait quand même dans le bien commun. Et on pourrait admettre qu'un jour, on défriche, on reconvertisse ces friches industrielles en d'autres projets. Et du coup, comme ce serait resté dans la propriété publique, on aurait encore un accès. C'est vrai que dans toutes les rencontres qu'on a faites, que ce soit donc, des élus ou des gens individuellement en allant rencontrer à l'occasion des conseils communautaires, aller rencontrer des élus, etc., différentes personnes, c'est vrai que ce qui est difficile dans les échanges, c'est que souvent, on nous oppose des arguments qui sont complètement décalés par rapport à la problématique, comme de dire « mais oui, mais des terres en déprise agricole, il y en a plein dans le Haut-Diwa, oui, mais c'est pas les mêmes terres, mais oui, mais c'est plus des terres agricoles, oui, mais justement, c'est vous qui les avez déclassées, c'est vous qui les avez converties en autre chose, donc ce qu'on vous demande, c'est de faire manichita arrière là-dessus. » Et donc, en fait, on est souvent dans des espèces de fin de non-recevoir, et c'est pour ça que ça a été assez difficile, cette rencontre, parce qu'en fait, on est souvent dans des... Les arguments qui se télescopent, quoi.
On peut ajouter aussi que, on est pris au départ, le collectif, on est pris pour des guignols, quoi.
Je dirais pas ça.
Oui, moi, je vais partir. Mais n'empêche que depuis...
C'était vraiment aussi ce que vous avez ressenti.
Oui, on est balayé comme
ce
si on était...
C'est quand même une posture assez méprisante, quoi.
Oui, mais depuis qu'on se bouge et qu'on s'active... là, le dernier intercom qui est sorti, c'était un numéro entier sur l'urbanisme, où il parle de la requalification de la zone de Cocos. Il y a Matron qui a sorti un article où il parle de l'importance des terres agricoles et tout ça. Donc, même s'ils nous traitent comme des guignols, ils reprennent quand même ce qu'on dit, tous les arguments, et finalement, petit à petit, c'est en train de rentrer dans la tête de ces élus.
Dans le discours, pour le moment. Dans le discours.
Par exemple, pour l'hôpital aussi, pareil. Là, ils avaient acheté... A priori, ils sont en train de dire que finalement, ça ne se fera pas à Chamarge. Ils sont en train d'étudier Champ-Queyras. Et on a fait un courrier qui a été signé de la Confédération paysanne, du collectif de défense de l'hôpital, de la CGT Santé et du collectif des tulipes sauvages pour les élus, pour leur dire que, OK, vous pouvez étudier la possibilité de Champ-Queyras, machin et tout ça, mais... Il faudrait quand même étudier la possibilité de rénover l'hôpital avant d'aller voir ailleurs, quand même.
C'est ça qu'il faut insister par rapport. Et que là, il faut amener des différents acteurs qui sont au niveau déjà de l'éco-construction et les obliger justement à que ces personnes qui ont déjà un certain niveau supérieur, je ne sais pas, Cratère ou des autres associations qui existent au niveau national et qui sont aussi une position parfois... international, je pense que ça sera pas si mal qu'ils soient dans les collectifs, de les introduire dans les collectifs. Et une autre chose que je voulais penser par rapport au niveau de la réutilisation des sols, pourquoi pas demander justement des expertises par rapport au niveau de la fertilisation des sols.
L'expertise, elle existe. Ces terres, en fait, elles étaient travaillées il n'y a pas longtemps. Si tu veux, en fait, toutes ces terres qui sont en train d'être détruites, là, elles étaient travaillées l'année dernière. C'est pas comme si on parlait d'un truc de la préhistoire, là.
Sur la fertilité, on a toutes les infos, les mecs qui produisaient jusqu'à il y a... Quand je dis ça, c'est par rapport, bon, de certains, je ne sais pas où il est écossaire, je ne sais pas, mais qu'il puisse avoir une certaine analyse. Ce sont des choses qu'il faut qu'ils nous arrêtent de traiter comme des guignols et qu'on puisse créer des équipes.
Là, il y a des paysans, si tu veux, qui peuvent parler de la productivité de leur terre.
Mais bien sûr, sauf que malheureusement, on sait comment les paysans ne sont pas respectés, ils sont en train de disparaître jour à jour, et que les paysans, ils doivent être d'accord aussi avec certains professionnels au niveau de prendre des échantillons du sol, ils voient justement sur la partie des cultivables, plus avec les rapports des paysans. Donc, ce sont des choses que, dans lesquelles je pense que c'est une possibilité à continuer à évoluer ensemble, parce qu'ils sont vraiment... voilà.
Si je peux répondre, en fait, c'est une des grandes tactiques de la communauté de communes. La réunion qu'on a eue avec eux, ça s'est conclu sur... Ah, et puis pour ces histoires d'autonomie alimentaire, selon Alain Matron, on commandera une expertise. Tu vois.
Oui, mais
Donc le truc, c'est qu'ils commandent une expertise et ensuite ils mettent ça sous le tapis.
Oui, mais il faut savoir que tout
va très bien.
Oui, mais il faut savoir quel type d'expertise. Aujourd'hui, on a l'expertise au niveau justement de toute la quantité de sols qui se sont désertifiés, qui sont en perdition, de toute la quantité de forêts qui a été perdue il y a plus de millions et des millions. Donc il faut vraiment effacer au niveau du changement climatique et aussi. Quel est justement dans quelques années, comment ça va passer ici au niveau de l'eau. Donc la bétonisation va contre justement, c'est un contre au niveau justement de l'avenir de l'eau dans la région. Dans 10 ans, est-ce qu'il y aura de l'eau? Ils vont quoi? Ils vont manger quoi? Des bétons?
Après, je pense qu'en fait, le constat pour celui qui s'intéresse au sujet, il est quand même assez accessible maintenant. Dès que tu grattes un peu, tu vois qu'il y a tout un tas d'organismes très sérieux qui ont pignon sur rue, des bureaux d'études à l'échelle nationale. En fait, tout le monde a déjà fait les travaux pour dire il faut arrêter d'urbaniser, il faut préserver nos terres, il faut préserver nos ressources en eau. Tout ce constat-là, il est déjà fait. C'est simplement que la décision politique... Maintenant, elle ne suit pas et elle ne suivra pas tant qu'en fait, il y aura des enjeux économiques supérieurs, n'est-ce pas ?
Mais d'autant plus que, pardon, juste pour compléter ce que dit Vincent, en fait, à l'échelle nationale, toutes les lois qui sont passées très récemment et un peu moins récemment, elles sont déjà passées concernant ça. Zéro artificialisation nette, la loi ZAN, là, machin. Il y a déjà tout ça. En fait, tout ce qui est législatif, documentaire est déjà fait. Mais la problématique, c'est ce qu'on vous disait tout au début, c'est que là, on est sur des processus qui ont été enclenchés il y a une quinzaine d'années, avec des révisions de PLU qui tombent de temps en temps, comme ça, bloom, comme celui qu'il y a eu cet hiver, sur des points de détail. Donc, du coup, c'est hyper difficile d'aller sur ce point de détail, dire que globalement, le projet, il ne tient pas debout. Parce qu'on doit y aller en parlant que de cette zone X. Alors là, par exemple, il y a une noyeraie qui était classée de travers, il s'était planté de parcelles. Elle était classée en zone naturelle, mais pas sur la bonne parcelle. Du coup, au lieu de déplacer le classement de cette noyeraie et de protéger quand même la noyeraie, bah, en fait, finalement, on coupe la noyeraie.
On supprime
le classement. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs complètement absurdes. Enfin, il faut se les taper. En plus, les documents, c'est des gros machins avec des numéros de parcelle, bidule, truc, bidule. Il faut aller vérifier
avec
si c'est le machin.
Avec un langage hyper technique. Je ne sais pas combien de pages. On a été là à regarder qu'est-ce qu'il voulait dire. Il y avait plein d'erreurs.
Il y avait énormément d'erreurs. Ça, c'était quand même...
C'est fou.
Quand tu es sur le terrain et que tu vois tous les trucs qui ne sont pas en face, ils se sont plantés de numéros, après ils suppriment le truc. Enfin, et donc du coup, c'est assez troublant parce que d'un côté, la procédure doit être très, très précise. D'un autre côté, les textes de loi existent tous et les proclamations ont déjà toutes été faites sur la question climatique, la bétonisation, l'artificialisation, l'autonomie alimentaire. Tout le monde est d'accord sur tout apparemment, sauf qu'en fait, dans les faits, le truc qui continue, c'est le bulldozer et ça détruit tout et il faut continuer.
Et du coup, ce qui manque, c'est la volonté politique. Et c'est pour ça que nous, on essaye de faire levier et pression sur les élus pour dire, écoutez, au niveau national, il y a déjà des lois qui sont passées dans ce sens-là, qu'est-ce que vous faites ? Enfin, comment on fait marche arrière pour des procédures qui ont été enclenchées et qui ne respectent pas maintenant et aujourd'hui un contexte qui est complètement différent à celui d'il y a 60 ans ? Et c'est ça qu'il faut pousser les élus à agir
aujourd'hui. Enfin,
oui. Ah oui, on a envoyé.
Là, moi, je me demandais aussi dans quelle mesure les propriétaires terriens acceptent de bon gré, enfin de plus ou moins bon gré, de céder leur terre. Et dans quelle mesure aussi eux sont partie prenante et tirent leurs bénéfices en fait de toute l'artificialisation des terres. Qui sont les propriétaires dans le Diwa et comment ils s'enrichissent aussi de tout ce processus, tout en étant d'une certaine façon un peu les tenants de l'agriculture et de.
Alors, comme j'ai déjà dit, c'est pas ceux qui s'enrichissent le plus, hein, parce que effectivement, la vente des terrains agricoles va se faire de manière doublée, mais si vous calculez 10 000 mètres carrés vendus à 1 euro en terres agricoles, ça va faire 10 000 euros. Là, ils ont peut-être touché 20 000 euros par hectare vendu. Ça peut paraître une somme, mais en fait, par rapport au prix de revente, 10 ans plus tard, quand tu as construit dessus, que ça va chercher plutôt dans les 70 euros du mètre carré, le bénéfice, il est pas, le gros du bénéfice n'est pas pour l'agriculteur. C'est pas que je voyais absolument défendre les agriculteurs, mais ouais, pour expliquer en fait, déjà les retraites agricoles, je pense que tout le monde est à peu près au courant. Une retraite pleine agricole en ayant bossé 42 ans, c'est pas le SMIC quoi. Donc inévitablement la mentalité des agriculteurs par rapport à leur terre a changé. Avant effectivement on avait de la terre, on la lâchait pas quoi, vraiment il fallait une catastrophe familiale. Maintenant en fait ils sont rentrés dans la logique comme tout le monde de qu'est-ce que je peux faire pour faire fructifier mon patrimoine, pour que mes enfants puissent en profiter. C'est pas garder mes terrains pour qu'ils puissent les cultiver, puisque des agriculteurs, il y en avait 40% à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en France, maintenant ils sont 2%, on est 2%, voilà. Donc la plupart des agriculteurs, c'est pas leurs enfants qui vont reprendre, la plupart des agriculteurs en fait vont voir leurs terres partir à l'agrandissement. Donc quelque part, louer des terres agricoles pour 3 francs 6 sous ou les revendre.
L'agrandissement, ça veut dire que quelqu'un qui a déjà des terres va racheter...
Va les louer plutôt, d'une manière générale. Il faut savoir que je dis pas qu'il faut louer les terres agricoles chères, hein, mais le rapport, là, on est à l'hectare à peu près à 165 euros par an. Donc le calcul est vite fait. Est-ce que je vais attendre 150 ans pour toucher l'argent que je vais toucher en une fois en vendant ma terre? En fait, non. Voilà. Et pour finir de répondre à la question aussi, il faut voir qu'il y a une forte pression, par exemple, sur le terrain de l'hôpital, de l'ARS. C'est monsieur le maire, monsieur l'ex-maire d'Audi, Trémollet, qui est allé voir le propriétaire. Et qui lui a mis la pression en disant « Ouais, il faut que tu vendes, tu comprends, c'est pour l'hôpital, le bien commun, machin, patin, couffin. » Et du coup, il les a vendus. Lui, il n'avait pas besoin de les vendre. Hein. Il a 85 ans, il a déjà vendu d'autres terrains, effectivement, et il a fait un peu d'argent avec tout ça. C'était pas nécessaire pour lui de lâcher ces terrains-là. Mais simplement, l'agriculteur, il n'a pas, lui tout seul, la possibilité de résister au rouleau compresseur que représente l'urbanisation.
Moi, je trouve c'est important de dire ça aussi, c'est que c'est un peu facile de dire c'est la faute du mec qui a vendu, le mec, il était tout seul. Et c'est vrai que sur la grande collectivité qu'on représente, on attaque plus facilement peut-être le mec qui vend que tous les gens qui se font construire leur baraque, qu'elle soit biodynamique ou pas. Après, c'est une autre question, mais je veux dire, en gros, tous les gens qui veulent devenir propriétaires se font pas mettre autant pointer du bout de doigt que celui qui vendra. Je ne sais pas si c'est si équitable que ça comme façon d'analyser, parce qu'en plus, globalement, le fait que les domaines s'agrandissent, ça a aussi comme conséquence que du coup, les mecs qui veulent s'installer en agriculture, en général, ils sont donc avec des peu de moyens, puisqu'ils ne sont pas encore installés et donc ils sont en train de démarrer leur vie professionnelle, et que du coup, la plupart des domaines agricoles, ils deviennent inaccessibles à l'installation. Et donc, en fait, là, on a un problème, et ça, c'est un énorme problème dont on ne peut pas parler ce soir, mais c'est un vrai sujet de savoir comment on fait pour que, justement, ces grands domaines puissent être retransmis à plusieurs personnes différentes, de manière à ce que les gens s'installent. Et ça devrait être le rôle, justement, de la CCD. Au lieu d'acheter ces terres pour faire des entrepôts et des parkings, pourquoi ils n'achètent pas ces terres pour installer des mecs qui n'arrivent pas à s'installer parce qu'ils n'ont pas... Et des nanas, voilà. bien sûr, pardon, c'est une façon de parler. Mais je veux dire, voilà, c'est, en fait, le sujet, c'est ça, c'est les pouvoirs publics qui sont censés faire la régulation de cette question de la propriété privée vers une redistribution. Ou alors, en tout cas, dans mon imaginaire.
Il y a aussi deux autres choses. Quand on est allé voir le commissaire enquêteur, c'est vrai que quand on l'a rencontré, la première chose qu'il nous a dit, c'est « Ah ben, vous êtes les premiers à venir me voir pour ça.
Ah » oui.
Tous les autres, ils étaient venus le voir pour que leur terrain devienne constructible. Mmh. Alors bon, ça, c'est, voilà, c'est une situation. Et puis, il y a aussi sur les terres agricoles, souvent, ce n'est pas forcément les agriculteurs qui sont les propriétaires, mais ils sont locataires. Et il y a d'autres propriétaires. Il y en a certains qui sont intéressés pour vendre, et puis il y en a d'autres qui, au contraire, ne veulent pas vendre. Je ne sais pas si, Léna, tu veux parler du projet de la Carline, mais là, par exemple, c'est ça le cas. Mais enfin, bon, c'est juste que des fois, il y en a qui ne veulent pas et qui veulent justement que leur terre reste agricole. Bon, je ne sais pas...
Ouais, c'est que c'est dans la même zone, donc en dessous du terrain où il y avait le projet, ou peut-être encore de construire l'hôpital. Donc en face de la scierie, c'est toute une zone, je crois, de 16 hectares qui vont servir à installer des jeunes et à produire entre autres des légumes pour la Carline. Et donc la Carline, dans ce cadre-là, elle a voulu justement trouver une forme... qui permettent à ce que les terres restent à vocation agricole. Et donc, pour le coup, là, c'est la famille de propriétaires qui et l'agriculteur qui loue ces terres-là actuellement, qui sont en lien directement avec la Carline pour trouver une forme juridique aussi qui permette de faire ça. Parce que c'est vrai qu'au niveau des structures, c'est pas toujours évident de trouver le format qui permet aux agriculteurs d'avoir leur statut à la MSA, à une structure coopérative d'être garante et de porter les responsabilités. Donc en tout cas, c'est vrai que le zonage, mais la zone sur laquelle nous, on lutte contre l'artificialisation, elle touche au moins une partie où on sait que ça restera agricole et qui va être portée par une structure qui est plutôt d'accord avec ce qu'on défend et qui dit même que si l'ARS annulait son projet d'hôpital et ne savait pas quoi faire du terrain, elle pourrait, par exemple, louer les terres à cette structure agricole qui va bientôt être créée.
Donc, des légumes.
C'est une location, du coup, hein, la Carline, c'est pas une location.
Oui, les agriculteurs accompagnés par la Carline pourrait travailler cette terre-là via une structure qui ferait l'intermédiaire. Enfin, je ne sais pas encore quel statut ça va être. Mais...
Peut-être pour rebondir sur ce que dit Léna, parce que ça a ouvert. Du coup, quelles sont les options, quelles sont les solutions, voilà, un peu l'avenir du projet. Du coup, c'est vrai qu'on a... c'est intéressant, voilà, de voir qu'en fait, il y a plein de possibilités. Bon, Terre de Liens a édité un truc, s'il y en a qui sont vraiment très intéressés... ça se trouve, où il me présente des centaines de projets qui ont permis d'éviter la disqualification des terres, enfin leur destruction, et de reposer d'autres projets, de les préserver en tant que zone agricole. Donc il y a plein de dispositifs, et juridiques, et économiques, et de synergie avec différents acteurs. Donc ça, c'est des projets qui sont déjà existants, qui servent d'exemple, avec des suggestions qui pourraient être appliquées. Donc en fait, des possibilités, il y en a. Après, nous, concrètement, là, sur le territoire et avec les enjeux, c'est vrai qu'en gros, il faut qu'on finisse de voir ce qu'on peut gérer au niveau de cette surface-là, cette surface des 2 hectares, non, des 3 hectares, des 4 hectares d'extension. Mais comme je vous disais au début, il y a vraiment ce gros enjeu de cette route du barreau. Et celui-là, c'est quand même un vrai sujet, parce qu'en fait, ça ouvre encore sur d'autres hectares qui pourraient potentiellement sauter. Et donc, tout ça, ça va se jouer quand même beaucoup dans le PLUI, qui normalement devait se faire... en fait, là, pendant qu'on était confinés, depuis les dernières élections jusqu'à maintenant, on aurait dû être dans la phase du PLUI où on était consulté, où il y avait les consultations citoyennes. On aurait dû être dans le moment où on rencontrait les élus, où on rencontrait le projet, où on nous présentait ça et où les gens se positionnaient. Tout ça n'a pas eu lieu à cause de la situation sanitaire. Mais du coup, résultat, en fait, il n'y a plus aucune info. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas où ça va. On ne sait pas quand est-ce que ça va commencer. on ne sait pas s'il y a des trucs qui sont déjà en train de se cuisiner dans les sous-sols et que nous, on va les voir tout d'un coup surgir. Et puis quand ça va surgir, ça va être encore trop tard, parce qu'en fait, c'est toujours trop tard. Quand on veut faire un truc, on arrive, il y a déjà le permis de construire, il y a déjà le truc qui est détruit, il y a déjà le machin qui est avec le camion pour vider le béton. Et donc, du coup, si on démarre à ce moment-là, ça ne marche pas. Donc, il faut... Et donc, c'est vrai que sur le PLUI, ben, on manque cruellement d'informations. Voilà, donc il y a cet enjeu-là. Après, il y a peut-être des négociations plus fines. On avait dit qu'on parlait des projets, donc je m'arrête. Donc il y a des négociations plus fines à jouer, qui se jouent avec les entreprises, parce qu'en fait, c'est l'exemple que donne Léna avec la Carline, c'est qu'en fait, finalement, qui prend en charge ces problématiques, ben, finalement, c'est, ça se joue presque plus facilement avec des privés qui vont, ou des structures disons, pas, voilà, qui vont réintégrer ça à leur projet, plutôt qu'avec les élus qu'on a, en tout cas à la CCD, qui pour l'instant ne se sont pas manifestés positivement, en tout cas pour avoir un échange avec cette problématique citoyenne qu'on a soulevée. Donc pour l'instant, on se dit qu'il y a peut-être du côté d'un travail conjoint avec les entreprises qui s'installent dans le coin, dont Nateva, qui est en limitrophe, la possibilité de travailler ensemble pour essayer de faire émerger autre chose. La question du PLUI, où là, franchement, je renvoie tout le monde à aller sur le site de la CCD le plus souvent possible, voir ce qui se passe, et puis essayer d'agir quand le truc sortira, parce que ça peut nous passer sous le nez.
Et de les interpeller, même si vous en connaissez certains, si vous venez de village d'à côté, tous vos maires, en fait, ils sont conseillers à la CCD, quoi. Et à la mairie de Die, en fait, il y a la moitié du conseil municipal qui siège à la communauté de communes. On a la chance d'avoir des élus à qui on peut parler directement, là. Donc, il faut y aller, il faut aller les voir. Et moi, je voudrais juste rajouter une petite anecdote pour démontrer, en fait, l'intérêt de lutter localement, quoi. C'est avec la Confédération Paysanne, on était allé à Saint-Vallier, manifester contre un projet de nouvelle plateforme logistique pour des camions qui vont distribuer les produits Amazon et autres trucs, voilà, qui va bouffer 300 hectares de terre. Alors, on n'est pas sur les mêmes échelles hein, que dans le Diois. 300 hectares, c'est toute la plaine de Chamarche, pour vous donner une idée, depuis Die jusqu'à Saint-Auban, quoi, vous voyez. Donc, ces 300 hectares-là, on était, allez, 150 à tout casser pour manifester. Alors que le même jour, il y avait une manif pour le climat à Valence. Bon, je trouve ça très bien hein, que les gens expriment leur envie de défendre le climat, l'écologie en général, etc. Mais je suis persuadé que si les 3000 personnes qui étaient à Valence ce jour-là étaient venues à Saint-Vallier mettre la pression sur la mairie et la communauté de communes de Saint-Vallier pour que le projet ne se fasse pas, eh ben, ça aurait beaucoup plus d'impact que 3000 personnes à Valence qui manifestent pour le climat en général, quoi. Voilà.
Et d'ailleurs, justement,
coming soon.
Et du coup, juste pour petit rappel, il y a à nouveau un appel pour faire des actions ce 17 avril. Et nous, on voulait vous proposer, du coup, faire une action avec nous. Tu veux la présenter ? Et du coup, l'idée, c'est avec vous construire des fleurs de tulipes sauvages, aller au marché, tracter, parler avec les gens, informer de ce qui se passe, et après aller sur le lieu qui est en danger, en tout cas dans le Diois, pour faire un pique-nique tous ensemble et occuper ces lieux et se l'approprier et constater qu'il y a des très belles fleurs. Il n'y a pas que des tulipes, il y a plein d'autres espèces. Il y a aussi des oiseaux et du coup, être présent. Sauf que, à nouveau, ça confine. Et donc, on a déposé une demande pour voir si cette manifestation, elle peut être autorisée. Et si jamais ce n'est pas le cas, normalement, c'est bien parti, mais si jamais ce n'est pas le cas, on a un plan B. Et donc, on vous invite aussi. Mais on vous dira après.
On est même capable de faire des manifs virtuelles maintenant, donc bon, voilà.
Sachant que c'est Adi et que notre préfet, c'est Moutou, et que c'est lui qui va décider si la manif doit se faire ou pas, je vous laisse juger si elle va être autorisée ou pas. Mais
bon. C'est la conf qui nous a aidé du coup à déposer cette demande et on espère que ça va passer, mais si jamais ça passe pas, on va devoir faire comme le 17 novembre, on va essayer de faire une action qui soit visible, même si on n'a pas les droits normalement de se rassembler, etc. On essaye de structurer ces plans B. Et,
oui.
Voici.
Ouais, non, je voulais peut-être juste vous lire un tout petit paragraphe de l'appel à agir contre la réintoxication du monde, voilà, que je laisserai dans le hall, que vous pouvez lire. Le 17 avril se trouve aussi être la journée internationale des luttes paysannes, qui défend chaque année la nécessité de préserver des terres nourricières pour une agriculture soigneuse du vivant. Si nous visons sérieusement à nous défaire de pans conséquents du monde marchand, il nous faut conjointement nous doter des formes d'autonomie à même de répondre à nos besoins fondamentaux. Nous appelons donc également à des occupations de terres en ville ou dans les zones périurbaines pour des projets de culture vivrière, mais aussi à des réquisitions d'espaces d'entraide, de soins, de redistribution et de création. Il n'y aura pas de tournant sans que l'on construise ici et maintenant des formes de vie pleines de sens et bien plus désirables que celles inféodées aux besoins du marché.
Voilà. Et donc, si ces sujets vous intéressent, si vous êtes dans les DIY, si vous êtes des passages, mais que vous avez envie de donner un petit peu de votre temps et votre énergie, on vous invite aussi à participer dans les collectifs, parce que c'est toujours bien que ça s'oxygène, qu'il y ait de nouveaux mondes qui arrivent, qu'il y ait des nouvelles idées, des nouveaux cœurs, des nouvelles mains aussi. Parce qu'il y a plein de boulot derrière, il y a plein de documents à lire, il y a plein de choses qu'on pourrait faire justement pour pousser cette volonté politique de nos élus. Et du coup, si jamais vous voulez participer au collectif, c'est un collectif qui reste ouvert et qui, donc voilà, on vous demande aussi de les faire vivre d'une façon ou d'une autre. Signez la pétition si vous ne l'avez pas signée. Ah oui,
si jamais.
Il y a un mail aussi sur le flyer qui est à l'entrée où on fait. Il y a deux photos des comparaisons justement entre la taille des dits il y a 60 ans et maintenant. Voilà, celui-là. Et là, il y a le mail de la tulipe, les enjeux principaux. C'est voilà. Un de nos premiers flyers.
Si vous voulez du coup participer, c'est vrai que vous pouvez par exemple envoyer un mail comme ça. Enfin, sauf si vous êtes ici et que vous pouvez voir quelqu'un d'entre nous, sinon vous pouvez envoyer un mail pour qu'on vous tienne au courant.
Ouais. Parce que, en fait, juste, on est une grosse dizaine de personnes dans le noyau dur constitué du collectif et on trouve qu'on n'est pas du tout assez par rapport à tout ce qu'il y a à faire.
C'est clair.
Après, c'est aussi sur les actions. Ouais. Par exemple, là, de la manif du 17, ça peut être déjà une première fois.
Ça peut être ponctuel sur la durée, comme vous voulez, mais. C'est toujours chouette quand il y a de nouvelles énergies qui arrivent.
Moi, ça serait intéressant, un petit tout ça.
Très bien. Ouais. Bienvenue.
Merci.
Voilà, donc n'hésitez pas, on est par là et voilà. Il y a les mails aussi. Ah, c'est à quelle heure l'action?
C'est midi. Midi sur le marché.
Ouais. En espérant qu'elle soit autorisée, et sinon on vous communiquera les plans B. Qu'est-ce qu'on fait?
Merci d'avoir fait ce collectif.
Merci
d'être venu nous en parler.
Ouais.
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 Bravo.
Le 17, c'est la semaine prochaine?
Ouais.
Ouais.
C'est un samedi.
C'est samedi de la semaine prochaine.
Bientôt.
Ouais,
c'est ça.
C'est toujours bientôt. En fait, là, depuis qu'on fait ça, c'est toujours bientôt.
Mais c'est pas trop tard.
Encore. C'est jamais trop tard.
C'est jamais trop tard, mais c'est toujours juste pour demain. Ah oui, d'ailleurs, on a aussi envoyé un mail à tous les élus de la communauté de communes parce qu'ils votaient le budget. Et donc, je sais qu'il y a eu le débat d'orientation budgétaire. Ils devaient voter... Alors, sur le débat, il y avait 2 400 000 euros qui étaient affectés à l'aménagement de la zone nord de Chamarges et en particulier 1 400 000 cette année, en 2021, qui devaient être dépensés sur bétonner cette zone.
Oh,
voilà.
Là.
Et donc, on leur a écrit pour leur dire votez contre, s'il vous plaît. Discutez-en au moins. Mais bon, je ne sais pas où ça en est. Ça, c'est un autre truc qu'il faudrait faire, c'est lire tous les comptes rendus de la communauté de communes. C'est vraiment un travail de... Voilà. Bref.
Merci en tout cas d'être venu aussi. Écoutez,
merci.
ça fait plaisir de partager tout ça.
Mais oui, carrément. Et ça nous met aussi en ordre les idées.
Ouais, en plus là, on a l'impression que c'est comme un spectacle.
C'est trop beau comment vous prenez la parole. À...